Avant de lire, nous prions. Notre Dieu, ta parole est comme de l'eau. Rafraîchis-nous à sa source. Ta parole est comme le feu. Elle nous éclaire. Ta parole est comme le ciel. Élargis-nous en elle. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle. Nous comptons sur ta parole, Dieu de mémoire, Dieu d'espérance. Amen. Alors, comme je vous l'avais indiqué dimanche dernier, dans le dernier culte de cette série consacrée à des figures féminines de la Bible, eh bien, c'est avec Marie de Magdala que nous cheminerons ce matin ensemble avec deux extraits. Le premier dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 8. Vous avez ces deux extraits sur la petite feuille qui se trouvait dans vos cantiques, si vous voulez les lire en même temps. Le second chapitre, dans l'Évangile selon Jean, mais nous commençons donc, je commence à dire, au chapitre 8 de l'Évangile selon Luc, les versets 1 à 3. Par la suite, Jésus se mit à cheminer de ville en ville et de village en village. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, celle qu'on appelle la Magdalène, de qui étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne, et beaucoup d'autres qui utilisaient leurs biens pour les servir. Et donc dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 1 et 2, et puis 11 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie la Magdaléenne vient au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Ensuite, c'est le passage où Pierre et le disciple que Jésus aimait courent au tombeau, voient les linges et repartent. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors deux anges vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent: « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit: « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna. Elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit: « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit: « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu: « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore montée vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vit annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Marie-Madeleine, c'est la manière dont la Nouvelle Bible Second et bien d'autres versions traduisent Marie la Magdaléenne. Parce qu'il y a Marie de Magdala et il y a Marie-Madeleine. La Magdaléenne et la Madeleine. Et en fait, ce ne sont pas les mêmes. La première, la Magdaléenne, se rencontre dans les textes bibliques et dans les quatre évangiles. Aucun ne l'ignore. Elle est citée par tous comme étant présente lors de la crucifixion, avec d'autres femmes, parfois à distance ou au pied de la croix, comme dans l'évangile de Jean. De même, les quatre évangélistes la présentent venue au tombeau le matin de Pâques, en compagnie d'autres femmes ou seules, comme dans l'évangile de Jean. Et le récit que nous avons lu ce matin dans cet évangile fait d'elle le premier témoin du ressuscité, avant les disciples, alors que Pierre et le disciple que Jésus aimait, pourtant eux aussi venus au tombeau, ne l'ont pas vu. L'évangéliste Luc la cite au chapitre 8, donc assez en avant dans son évangile, comme faisant partie des femmes qui soutenaient l'action de Jésus, et certainement par des moyens financiers. Il fallait bien des ressources pour faire vivre cette troupe de disciples qui suivaient leur maître sur les routes de Judée et de Galilée. Marie-Madeleine, elle, est une figure féminine construite bien après la rédaction des évangiles, construite petit à petit et puis avec aussi quelques décisions assez autoritaires, comme celle d'Augustin d'Hippone, qui confondit en une seule femme Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, celle qui oint de parfum la tête de Jésus dans l'évangile de Jean, et la femme qui, dans l'évangile de Luc, fait irruption au milieu du repas chez Simon pour oindre les pieds de Jésus. Et puis ensuite, Grégoire le Grand, au VIe siècle, affirme que cette femme, déjà composée de deux femmes, en est une troisième, et qu'il s'agit de Marie de Magdala. Il s'appuie sur la notation lucanienne des sept démons, puisque bien sûr, sept démons sont forcément les démons de vice dont la pécheresse du récit de Luc porte le fardeau aux yeux de beaucoup et même après avoir été pardonnée. Donc, Marie de Magdala, plus Marie de Béthanie, plus la femme pécheresse, la confusion des trois, donne naissance à celle qu'on appelle Marie-Madeleine, celle qui, depuis 20 siècles, demeure éternellement pénitente, même en extase. Il faut y ajouter d'ailleurs, pour être vraiment précis, un ajout tardif, une quatrième femme pour composer cette figure de Marie-Madeleine, Marie l'Égyptienne, dont la légende dorée de Jacques de Voragine raconte au XIIIe siècle la repentance de prostituée à ermite du désert, seule pendant 47 ans, errant, nue et seulement recouverte de sa longue chevelure. C'est Marie-Madeleine qui, après avoir traversé la Méditerranée avec Lazare et quelques autres, aborde à Marseille et termine sa vie retirée dans une grotte, en prière, nourrie par les anges. Et c'est elle auquel on rend pèlerinage à Vézelay, à la Sainte-Baume, et qui a donné son nom à bien d'autres lieux en France et ailleurs. C'est elle aussi, cette Marie-Madeleine, que poètes, écrivains et peintres illustrent à travers les siècles, une figure composée qui finit par accueillir tous les pénitents, tous les repentants, pour le meilleur ou pour le pire. De la compassion aux prostituées des rues de Paris, à l'enfermement des filles considérées ou soupçonnées d'être de mauvaises mœurs. Lorsque l'Église oublie que Marie-Madeleine, obstinément, à travers et malgré toutes les légendes, porte le parfum de la grâce. C'est vers les écrits gnostiques qu'il faut se tourner pour une autre tradition concernant Marie de Magdala, initiée par Jésus au mystère divin comme l'alter ego du Sauveur. Et c'est cette tradition-là, fort ancienne, relue et interprétée au XXe et encore aujourd'hui, et en dehors des codes gnostiques, qui dessinera de livre en film, encore un sorti cette semaine, la figure de l'amante, de l'épouse de Jésus de Nazareth. Ainsi, Marie de Magdala, recomposée en Marie-Madeleine, est une figure de femme multiple et multipliée au cours des siècles, reflétant des projections, des aspirations, suscitant même des contestations, par exemple pour les mouvements féministes chrétiens. Mais revenons au texte biblique, à Marie de Magdala, la Magdaléenne des évangiles de Luc et de Jean. Les sept démons dont Marie était possédée ne l'inscrivent pas particulièrement dans la catégorie des pécheresses, pour ceux qui aiment les catégories. Les démons ne sont pas des vices, n'en déplaise à Grégoire le Grand. Les personnes possédées par un esprit impur sont avant tout des personnes souffrantes, dont Jésus de Nazareth se préoccupe pour les restaurer, pour les délivrer. Et ces récits sont assez nombreux dans les évangiles synoptiques. Jésus chasse les démons. C'est une des manifestations de la bonne nouvelle. Et c'est ainsi qu'il a rendu Marie de Magdala à elle-même. Cette femme indépendante, puisqu'elle n'est pas nommée en relation à un homme, père ou époux, mais à une ville, a été, selon Luc, envahie, occupée par sept démons. C'est beaucoup, hein, peut-être un peu moins que le démon Légion du possédé de Zéraza. Mais c'est-à-dire que, soumise à une oppression, Marie de Magdala a été dans l'impossibilité de vivre sa propre existence de personne singulière et responsable. Certains voient toujours dans les démons, dans les esprits impurs, des entités extérieures à l'être humain est capable de l'investir, de l'envahir ainsi, de le posséder. Mais dans une grammaire du monde dépourvue d'esprit impur, l'expression renvoie à toute forme de dépendance, d'addiction, dans lesquelles des humains se réfugient ou se font prendre par inconscience, par refus ou par peur de vivre leur existence quand il n'y a pas d'espérance. Et qu'il y ait eu sept démons en Marie de Magdala signale combien l'emprise est ou peut être puissante. La femme indépendante était une femme possédée. Et Jésus l'en a délivrée. Il a libéré Marie. Et selon Luc, c'est à partir de cette libération que Marie a donc commencé son existence. Nouvelle, mais la sienne, elle-même, unique, en décidant de suivre Jésus et de le soutenir. Chaque récit biblique d'une personne délivrée d'une possession témoigne ainsi pour nous tous de la possibilité et du don d'une vie réanimée dans sa qualité d'existence singulière et dans sa vérité d'existence précieuse. C'est une femme libérée que Marie de Magdala dans l'évangile de Luc, qui pourtant ne la mentionnera plus dans le second volet de son œuvre au livre des Actes. Alors nous ne savons pas si l'évangéliste Jean a eu connaissance de ce récit lucanien au sujet de Marie. Mais il s'accorde donc avec Marc, Luc et Matthieu pour faire de Marie un témoin, et même en ce qui le concerne, le témoin unique de la première manifestation du ressuscité. Alors dans ce récit de Pâques, je voudrais relever un aspect particulier ce matin au sujet de Marie de Magdala. Tout commence par une défaite de plus en plus grande, que le récit s'emploie à inscrire, voire à construire en plusieurs épisodes successifs. Et c'est Marie de Magdala qui est défaite. Jésus est mort, il a été enseveli. Elle le sait, elle l'a vu, elle y était. Elle qui l'aimait et qui l'aime encore, comme on continue à aimer ceux qui sont morts. L'amour singularise Marie. L'amour qui est élan de vie ne peut être qu'élan d'une personne particulière, de même que l'amour éprouvé l'est pour une personne particulière. On n'aime pas en masse, ou en bloc, on n'aime pas indistinctement, vaguement. L'amour distingue toujours. D'ailleurs, Jésus le bon berger appelle ses brebis chacune par leur nom et ses brebis connaissent sa voix. C'est écrit là au-dessus de l'orgue au foyer de l'âme. Une voix particulière, unique, irremplaçable. Et Marie est défaite, comme une construction qui s'effondre, parce que cette voix qui la tenait, la mobilisait, la concentrait, cette voix qui la portait au-delà d'elle-même, s'est tue. Il ne reste qu'un tombeau et des souvenirs. Le deuil, la mort, commence par défaire. Et Marie cherche au tombeau à renouer les souvenirs et le présent. Et c'est bien ainsi dans le deuil. Les nœuds entre le passé et le présent du deuil permettent aussi de se raccrocher et d'avancer, d'aller plus loin. Seulement, ce matin, la pierre a été enlevée et le tombeau est ouvert. Alors la défaite de Marie s'accentue. Devant le tombeau vide, il n'est pas possible de renouer, de s'accrocher, de se tenir dans ce temps particulier, mis à part, où l'on oscille entre la pesanteur de la mort et l'appel de la vie. Jésus est mort et son corps a disparu. Un corps qui est un cadavre, mais dont l'absence redouble la perte. Et voici Marie à nouveau envahie, occupée, focalisée sur une seule pensée. Où est-il ? Où l'a-t-on mis ? C'est ce qu'elle dit aux deux disciples, Pierre et le disciple que Jésus aimait, celui qui n'a pas de nom, celui qui n'est pas Jean, celui qui aime aussi Jésus comme il est aimé, comme Marie aime Jésus, et que Jésus aimait Marie également. Il n'aimait pas qu'un seul disciple, Jésus, parmi les 12 et parmi celles et ceux qui le suivaient et le soutenaient. Où est le corps de Jésus ? Mais les deux disciples ne disent rien à Marie de ce qu'ils ont vu dans le tombeau vide, de ce qu'ils ont compris et surtout pas compris. Ils la laissent là, devant le tombeau vide, sans considération pour ses larmes, puisqu'elle pleure, des larmes de défaite, de tout ce qui se défait en elle, qui aimait, qui aime encore, qui était aimé, mais qui l'aime encore. Au fur et à mesure que Marie se défait, la question prend de plus en plus de place. Si bien que la vue de deux anges dans le tombeau assis aux emplacements de la tête et des pieds de Jésus ne la fait même pas réagir particulièrement. Pour elle, il ne peut y avoir qu'une chose entre les anges et elle, c'est la réponse à sa question, ce qu'elle ne sait pas, et elle ne sait pas où on a mis le corps de Jésus. Que ce soit des anges qui lui parlent la laisse indifférente. Ce pourrait tout aussi bien être un berger, un disciple ou l'empereur de Rome. Aucune importance. Marie ne voit rien d'autre que l'absence du corps. Elle n'entend rien qui puisse arrêter ce qui tourne dans sa tête, dans son esprit, dans son cœur, dans son corps, ce qui coule avec ses larmes sans la soulager. Où est le corps de Jésus ? Ce n'est pas de l'obstination. La mort de Jésus et la nécessité de trouver le corps du mort ne laissent aucun espace à Marie. Il n'y a pas de récit d'exorcisme dans l'évangile de Jean. La seule fois qu'il est fait mention d'un démon, c'est lorsque ses adversaires accusent Jésus d'avoir un démon parce que ce que Jésus dit les choque et les met en crise. Mais ce que raconte Jean dans ce récit, c'est la possession de Marie. C'est Marie sous l'emprise de la mort. Marie fascinée par un corps mort et absent. C'est ainsi que l'exemple de cette femme s'adresse à tous les vivants, tous ceux qui sont enfermés dans l'emprise de la mort et tous ceux qui sont menacés de l'être. Et il ne s'agit pas seulement des situations de deuil, mais de tout ce qui peut faire de nous humains des vivants sous la mort, vivants pour la mort, dans toutes les formes que prend la mort pour s'emparer des vivants. Ainsi, Marie ne voit pas que ce sont des anges qui sont assis dans le tombeau et qui lui parlent. L'emprise de la mort, l'emprise des puissances pour la mort, des tentations pour la mort, réduisent et vont jusqu'à annuler la capacité de l'humain à percevoir et à reconnaître l'altérité, l'autre. Mais elle replie l'être aussi, elle le confine dans l'étroitesse d'une pensée, d'une idée, d'un objectif où l'on croit trouver le salut. Où est le corps, s'angoisse Marie, incapable de reconnaître même l'altérité des anges, insensible à leur présence, rabattant tout sur sa seule obsession. Quelle que soit la forme que prend l'emprise de la mort, la guerre, la course au mérite, au profit, aux intérêts privés, quel que soit le prétexte dont se sert cette mort dans son emprise, la terre, le clan, les traditions, la religion et même la peur de la mort, cette emprise conduit à négliger autrui. Elle rend sourd et aveugle à la vie et au vivant et transforme la vie en survie. Dans le jardin du tombeau, Marie est défaite contre la mort. À celui qu'elle croit être le jardinier, elle demande toujours et insiste « Dis-moi où tu l'as mis, j'irai le prendre. » Il arrive que l'emprise de la mort transforme le deuil en une prison qui enferme les vivants. Et en bien d'autres circonstances, l'emprise de la mort les rétrécit en toutes petites portions d'eux-mêmes et leur fait oublier l'énergie de la vie en eux et que personne n'est jamais réductible à la nécessité ni aux circonstances. Le pouvoir de la mort fait croire que la mort est indépassable, qu'elle aura et a déjà le dernier mot, que c'est elle qui gagne à chaque fois et qu'on ne peut qu'essayer de souffrir le moins possible, d'essayer de s'en sortir le mieux possible. Il peut même faire croire ce pouvoir qu'il est possible de domestiquer la mort, mais ce n'est qu'une manière parmi d'autres de la servir encore. Le pouvoir de la mort vise à la résignation des vivants, à l'accommodement, aux stratégies de composition qui poussent toujours à sacrifier des vivants, des migrants, mineurs et adultes, des enfants, des femmes, des soldats, des civils. Mais cela n'est pas vivre, ce n'est pas être vivant de la vie que Dieu veut pour nous, ce Dieu qui nous dit « Choisis la vie ». Marie, dit le Christ vivant, sa voix à lui, son nom à elle, il l'appelle par son nom et elle reconnaît sa voix. Peut-être pas le son, mais ce qui, dans la voix du Christ, touche à l'âme et que chacun de nous peut entendre. Seulement un nom, Marie, mais cela suffit pour lui rendre conscience d'elle-même, pour la rétablir dans son être. Son nom prononcé, c'est le don de la reconnaissance. Elle est nommée, unique, précieuse, aimée. Alors Marie est restaurée, consolée, réintégrée, réunifiée, elle est libérée de ce qui l'avait envahie. Elle retrouve un avenir dès l'instant de son retour à elle-même. Et dans cette liberté redonnée, retrouvée, Marie peut écouter, elle peut accepter la distance et même la séparation. Marie peut aller, être envoyée, porter une parole bénéfique, une parole de vie. Aux disciples. D'où vient ce qui nous délie, ce qui nous restaure, nous console, nous réintègre en nous-mêmes, nous réunifie? Cela vient toujours de Pâques, d'un matin, d'un commencement, d'un jardin sous la rosée. Cela vient d'un amour capable d'irriguer toutes nos amours et de toujours susciter à nouveau notre existence. Cela vient d'une parole fiable déposée à nouveau dans l'intime du cœur. Cela vient de la puissance de Dieu qui survient pour que l'être humain devienne encore et toujours humain. Libération, appel, vocation, envoi, conversion, résurrection, salut, autant de facettes scintillantes de la même grâce qui a saisi la Magdaléenne et qui nous est donnée aujourd'hui et à toujours. Amen.